Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et oui, nous sommes le mardi 7 mai 2024 et c'est parti en direct comme chaque matin tous ensemble. Bienvenue dans Charles Matin, bienvenue sur RMC, bienvenue chez vous, bienvenue chez moi, bienvenue... non mais c'est vrai, je peux vous le dire, on n'a jamais été aussi nombreux tous ensemble de bon matin. Si on en croit les derniers chiffres d'audience, vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter Charles Matin de si bonne heure. Donc ravi d'être avec vous, de vous accompagner chaque matin de plus en plus nombreux avec Estelle Gasse le matin. Salut
bonjour
Estelle.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Je vais saluer toute l'équipe, Yann, Arthur en régie, Quentin et Nico qui vous attendent au 32-16. On est tous ensemble. Tiens Estelle, comment ça va toi ce matin?
Moi ça va. Ah. Toi par contre, je pense que t'es un peu plus tendu.
Ah, c'est sûr que oui, je dirais pas. Oui, tendu, stressé. Ouais, il y a un peu de excité aussi. Bah oui, Paris peut se qualifier ce soir pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Le PSG qui va devoir absolument gagner face à Dortmund après sa défaite 1-0 au match aller.
Et oui, soirée spéciale PSG Dortmund sur RMC en direct du Parc des Princes de 18h à minuit et demi. Ça continue même jusqu'à 1h30 du matin avec la libre antenne de l'After. Match à suivre sur RMC et aussi sur RMC Sport 1 à la télé.
Mais dès maintenant, ça se passe avec vous au 32-16, supporters parisiens ou pas. Vos pronos, comment vous allez vivre ce match-là? Est-ce que les bières sont déjà au frais? Est-ce que les pizzas sont commandées? Est-ce que ce sera chez pas avec les copains, en famille, entre amis, dehors, peut-être au stade. Tiens, si vous allez au parc, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Et puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous allez écouter ou regarder le match ce soir avant peut-être de profiter de quelques jours de congé avec ce très long pont de l'Ascension qui débute ce soir. On vous pose cette question d'ailleurs ce matin au 32-16, est-ce que c'est pas un peu trop long justement ce pont-là, trop de jours fériés, trop de ponts? Bon, clairement, la France tourne au ralenti pendant le mois de mai.
4 jours fériés au mois de mai, résultat 18 jours ouvrés seulement sur 31 ce mois-ci. Un manque à gagner global de 4 à 6 milliards d'euros selon l'INSEE.
Ouais, et certains secteurs vont tourner au ralenti, le BTP, l'industrie, mais d'autres se frottent les mains comme le transport, la culture, le tourisme. Alors on vous pose la question ce matin, est-ce qu'il y a trop de jours fériés? Tiens, dites-nous, est-ce que pour vous ce soir c'est le début d'un grand pont? À l'inverse, est-ce que vous serez au boulot demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine? Voilà, dans quelle équipe êtes-vous? Est-ce que vous êtes team pont ou team boulot pour les jours qui viennent? Oui, Estelle me sourit parce qu'elle va bosser jusqu'à la fin de semaine. Mais oui, Estelle, courageuse.
On est dans la même équipe, Charles.
Mais on ne vous juge pas. Peut-être que c'est le début d'un grand pont pour vous. Racontez-nous ce matin au 32-16. On est tous ensemble, évidemment. On a hâte d'entendre vos témoignages. Est-ce que vous vous félicitez? Voilà, c'est presque une tradition française, ce mois de mai au ralenti. Ou au contraire, est-ce que ça vous agace, voilà, de voir la France qui s'arrête un peu là pendant quelques jours? N'hésitez pas, le 32-16. Est ouvert. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC et c'est votre journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'espoir plus que jamais d'une trêve dans la bande de Gaza. Le Hamas accepte une proposition des médiateurs. Israël envoie une délégation pour négocier et bombarde en même temps la ville de Rafah. Déjà la fin de la semaine ce soir pour beaucoup de Français avec le 8 mai et le pont de l'Ascension. Journée rouge qui commence sur la route. Et Paris qui rêve de la finale. Demi-finale, retour de Ligue des champion ce soir entre le PSG et Dortmund au Parc des Princes. C'est une journée spéciale sur RMC.
Le Proche-Orient retient son souffle ce matin.
Après 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement palestinien a annoncé dans la soirée qu'il acceptait une proposition de trêve soumise par les pays médiateurs. C'est encore loin des exigences, disent les Israéliens, qui envoient malgré tout une délégation pour négocier en Égypte et qui ont quand même bombardé la ville de Rafah, faisant au moins 5 morts ces dernières heures. Et avec, au milieu de ce bras de fer diplomatique, plus d'un million de Gazaouis dans la région de Rafah qui vivent dans la confusion, avec donc cette annonce de trêve par le Hamas et les bombardements israéliens. Caroline Philippe.
Depuis la maison de sa sœur au nord de la ville,
j'attends bien les attaques. Mais on attend toujours les avions.
Asma s'est réfugiée là, après avoir fui Khan Younes.
C'est dur, dur.
La nuit, les cauchemars et la journée, le ventre noué par la peur d'une offensive israélienne au sol.
Si ils vont faire une opération ici à Rafah, alors on est obligé de rentrer à notre appartement. C'est vrai que les conditions à Khan Younis sont trop difficiles. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité.
Hier, c'était la confusion dans les rues de Rafah. Depuis sa fenêtre, Asma a d'abord vu des dizaines de voitures fuir, puis la liesse, au moment où le Hamas annonce accepter une proposition de trêve, toujours pas validée par Israël.
C'est de la politique. C'est un jeu entre le Hamas et l'Israël. Moi, je n'ai pas de confiance aux deux côtés, mais on prie. On souhaite bien que les choses s'arrêtent parce que c'est insupportable.
Hier, une partie de sa famille, ses tantes, ses oncles ont quitté l'est de la ville juste avant que la zone ne soit bombardée par l'armée israélienne.
Et c'est dans ce contexte que se déroulait hier soir à Paris le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, en présence de Gabriel Attal qui a donné le chiffre de 366 faits antisémites enregistrés depuis le début de l'année en France, en hausse, écoutez bien, de 300%, dit le Premier ministre qui parle d'une déferlante antisémite.
Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. Ce sont des violences, ce sont des intimidations, ce sont des lettres d'injures, d'insultes, de menaces. Chaque acte antisémite est une tache sur le drapeau français. Alors nous ne les tolérerons pas. Pas un acte ne doit rester impuni. Pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille en République.
Hier soir, Emmanuel Macron dînait avec le président chinois à l'Élysée avant de passer la journée. Ce mardi, dans les Pyrénées, au Tourmalet, les deux dirigeants ont appelé hier soir à une trêve des conflits dans le monde durant les Jeux Olympiques, après avoir échangé sur les différents commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Emmanuel Macron a offert des bouteilles de cognac à Xi Jinping en se félicitant qu'il n'y ait pas de taxe dans l'immédiat pour ce spiritueux. Emmanuel Macron qui rend hommage à Bernard Pivot, le journaliste et écrivain qui vient de mourir à 89 ans. Passeur populaire et exigeant, voilà ce que dit le président. Il avait présenté Bernard Pivot les émissions Apostrophe et Bouillon de Culture à la télé. Lui qui lisait en direct à la télévision des dictées aux Français, exercice devenu familier, Clément Brossard.
Quand vous soumettez une dictée de Bernard Pivot à trois jeunes parisiennes.
L'eau envahit les riazes. Et les fjords tant vantés par les tours opérateurs.
Ça ressemble un peu à un calvaire.
On a plein de petits mots qu'on connaît pas trop. C'est du chinois, c'est plus du français.
Et même pour les plus expérimentés comme Anne, l'exercice reste complexe.
Sur notre planète terraquée, les fagnes, les bayous et les loques rappellent sa présence. Notre planète terraquée, je connais pas cet adjectif.
Comme une sorte d'héritier de Bernard Pivot, Rachid Santaki organise maintenant des dictées géantes inspiré par l'académicien.
Pas mal de familles étaient devant leur télé à faire la dictée. Effectivement, ça m'a inspiré. C'était plutôt de faire des dictées au départ plus accessibles. Et aujourd'hui, effectivement, je suis les traces. Au-delà de l'inspiration, je suis amené à répondre aussi à cette demande et à cette envie de faire pencher toutes les générations à cet exercice.
Un exercice qu'il souhaite d'ailleurs à nouveau organiser prochainement pour rendre hommage à celui qu'il appelle Monsieur Culture, avec pour principal critère une difficulté accrue.
C'est donc déjà la fin de la semaine pour de nombreux Français, avec le 8 mai demain et le long pont de l'Ascension dans la foulée, avec des conséquences sur la route, beaucoup de monde, journée classée rouge ce mardi, et des conséquences économiques aussi, puisqu'avec tous les ponts en mai, on compte seulement 18 jours ouvrés sur les 31 du mois. C'est un de moins donc travaillé que l'année dernière. L'INSEE a fait le calcul, ça va coûter entre 4 et 6 milliards d'euros à l'économie, Solène Gardré.
Oui, certains secteurs sont pénalisés par le mois de mai. Selon l'INSEE, un jour férié coûte 1,5 milliard d'euros à l'économie française en ralentissant l'activité du bâtiment ou de l'industrie, explique l'économiste Mathieu Plane.
Quand vous avez des chantiers en cours de construction, notamment quand vous avez des secteurs industriels qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24, si vous avez moins de manœuvres ou moins de personnes disponibles, ça va avoir un ralentissement sur l'activité de façon assez évidente.
Mais cet impact négatif est rattrapé sur le reste de l'année, rassure-t-il.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça est anticipé. C'est pas comme une grève dans laquelle vous avez un blocage de la production qui serait pas anticipé. Là, les entreprises s'organisent face à cet événement qui est relativement récurrent. Donc, il faut pas juste se focaliser sur un mois qui est très spécifique.
D'autant que d'autres secteurs voient de leur côté leur activité augmenter. Les transports, la culture ou encore le tourisme. Par exemple, au mois de mai, les hôteliers notent en général une augmentation de plus de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à un mois d'hiver.
Et oui, il y en a qui se frottent les mains à l'approche de ce pont, mais d'autres qui vont au contraire être sur le pont, oui, sans mauvais jeu de mots, d'autres qui vont bosser. Racontez-nous ce matin, on vous attend au 32-16. Est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France là? Il y a un vrai impact économique. Est-ce que vous faites le pont ou pas? Ou est-ce que comme Quentin Vinet, vous allez bosser jusqu'à la fin de semaine? Pas de pont pour certains, d'autres qui s'arrêtent pendant quelques jours. Et on l'avoue, ça nous rend un peu jaloux, mais on doit le constater, ça fait du bien. Racontez-nous ce matin au 32-16, trop de jours fériés ou pas? Est-ce que ça vous choque, cette France qui s'arrête de bosser là pendant 5 jours au cœur du mois de mai? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on va en débattre tous ensemble.
Et puis ces jours de match, comme on dit chez les supporters, demi-finale, retour de Ligue des Champions pour Paris contre Dortmund, 21h ce soir, Parc des Princes. Les Parisiens qui ont perdu 1-0 la semaine dernière à l'aller, qui doivent absolument gagner ce soir devant leur public sur qui eh bien, ils comptent énormément.
Oui, toute la semaine au centre d'entraînement de Poissy, l'entraîneur Luis Enrique tient le même discours aux supporters.
C'est la seule phrase que c'est en français. On va gagner.
On va gagner. C'est la seule phrase que je connais en français.
On va gagner, bien sûr.
Des mots bien loin de la pression des années précédentes, comme face à Barcelone en quart de finale. Les Parisiens sont sereins face à l'événement. Ils travaillent quotidiennement avec un psychologue du sport. Le capitaine Marquinhos est apaisé.
On ne sait pas ce qui va se passer. La confiance, je crois, qui vient de travail, qui vient de la sérénité qu'on a travaillé pendant toute la saison.
Autre élément pour aider les joueurs à se transcender, le Parc des Princes sera plein. 47 000 spectateurs, le collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters, appelle le public à ne faire qu'un. De quoi motiver le coach Luis Enrique.
On a la garantie absolue que les supporters seront avec nous, surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique. J'espère qu'on pourra célébrer le passage en finale.
Une sérénité qui touche aussi le président Nasser Al-Khelaifi, présent hier à l'entraînement. Son calme n'empêche pas d'avoir conscience de l'enjeu. Le dirigeant confie qu'il s'agit du match le plus important depuis que les Qataris sont à Paris.
Alors Arthur Perrault, soirée spéciale sur RMC en direct du Parc des Princes de 18h jusqu'à minuit et demi. Je vous signale qu'il y avait de la Ligue 1hier soir. Lyon est allé gagner à Lille 4-3 avec un scénario fou. Les Lillois menaient 3-2 jusqu'à la 88e minute. Les Lyonnais ont renversé le match complètement avec des buts de Lacazette et de Baldé à la 92e minute. On s'est pris un train dans la gueule. Ça, c'est ce que disait le président lillois à la fin du match.
Oui, une manière de dire qu'ils ont perdu, quoi.
Oui, non, mais on voit bien l'image. Hein,
voilà. Ce sont ces termes, voilà. C'est entre guillemets, évidemment. C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, on va garder un peu de suspense. Quentin, on vous retrouve tout à l'heure à 6h pour un prochain journal. On va attendre 6h09 pour le prono de Quentin pour ce soir. Pour
la date, faut que je le travaille.
Ah bah oui, ça vous laisse une heure, évidemment, pour le prono du PSG ce soir. Est-ce que vous y croyez ou pas? Dites-nous ce matin au 32-16, évidemment, mais aussi sur Direct Studio, comment vous voyez ce match ce soir des Parisiens. Est-ce que le PSG va le faire? Est-ce que le PSG va se qualifier, va renverser les Allemands de Dortmund? Il y a un but de retard au coup d'envoi. Est-ce que le PSG sera en finale ou pas de la Ligue des Champions? Venez nous le dire ce matin au 32-16. On surveille aussi tous vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio, Estelle.
Et oui, et notamment sur cette question, est-ce que on a trop de jours fériés en France? Eh bien, on a nos boulangers Jessie et Ludo qui nous disent pas de jours fériés aujourd'hui pour les boulangers.
Ah, aujourd'hui non, mais est-ce que demain matin il y aura du pain?
Ça, il y aura du question. Pain justement. Ah. En gros, ils bossent tous les jours fériés les boulangers et ils te disent ce soir Charles, allez Paris. On a Stéphane également sympa. Qui nous dit pour ce soir je suis assez confiant et surtout un bon pressentiment pour la qualification ce soir de Paris.
Bah, c'est fou, tout le monde y croit. Bah, tant mieux. Tant mieux, bah, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je dis tout le monde pour l'instant, quand on lit vos messages sur Direct Studio et puis on lit, oui, les courageux qui bossent, racontez-nous. Est-ce que c'est le début du pont ce soir pour vous? Même pour ceux qui bossent, hein, y a aussi la question des enfants, là, qui n'ont pas école vendredi non plus, là, il y a les enfants pendant 5 jours à la maison. Comment vous vous débrouillez aussi pendant ce pont du mois de mai? Est-ce que vous êtes team pont ou team boulot pendant les 5 prochains jours? Racontez-nous, le 32-16 évidemment est ouvert et puis on n'oublie pas qu'on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Oui, vous connaissez le principe, vous qui êtes levé tôt tous les matins sur RMC, vous écoutez toute l'info et on vous offre des cadeaux. Mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu du jour.
Qui joue son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes?
Ah, c'est ce soir, c'est l'événement, c'est l'attaquant très attendu, je donne trop d'indices là.
Un peu, oui.
Du PSG et de l'équipe de France. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 73216. Actu par SMS 73216.
Et si vous avez la bonne réponse, vous remporterez un Radio Réveil Dernier Cri de la marque Muse. Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à 6h20 à l'antenne.
Le réveil high-tech et puis pour fêter demi-finale du PSG, on doublera la mise. Vous aurez aussi la coque pour smartphone RMC. Tiens, celle-là aussi, on va vous l'offrir tout à l'heure à 6h20. Si vous êtes tiré au sort, si vous envoyez actu par SMS, 73216.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Oui, comme chaque matin, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. Ce matin, on est avec Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Alors Guillaume, ce matin, vous nous racontez le scénario invraisemblable de l'assassinat d'une mannequin en Équateur, tuée après avoir publié une photo sur ses réseaux.
Oui, une image qui n'avait pourtant rien de sulfureux ou de particulièrement provocateur. Une photo tout à fait anodine qu'elle a prise elle-même avec son téléphone, puisque c'était tout simplement une photo de son assiette dans un restaurant. Le plat qu'elle venait de commander, un ceviche de poulpe, un plat typique, dont la photo aurait permis à ses assassins de la localiser, de savoir dans quel restaurant elle se trouvait. 20 minutes à peine après la publication, deux tueurs à gages ont fait irruption et l'un d'eux a ouvert le feu, assassinant froidement la jeune femme. Landy Paraga est morte sur le coup à 23 ans. Elle qui avait été finaliste du concours de Miss Équateur il y a 2 ans. Depuis, elle était devenue influenceuse, suivie par 174 000 followers sur Instagram. Elle avait aussi créé sa propre marque de vêtements.
Mais pourquoi a-t-elle été assassinée comme ça dans un restaurant ?
Eh bien parce que cette jeune femme, au-delà de ses activités officielles et de ses innombrables séances photos, elle avait aussi une face plus sombre, une vie cachée qui pourrait bien avoir provoqué sa mort. Landy Paraga a été la maîtresse du principal baron de la drogue en Équateur, un certain Leandro Norero, également connu sous le surnom d'El Patron. Des photos de ce narcotrafiquant en compagnie de la jeune femme ont été retrouvées dans son téléphone. Leur relation serait même allée bien au-delà. La presse équatorienne évoque des soupçons de complicité. En fait, la reine de beauté aurait utilisé ses activités légales pour blanchir l'argent de la drogue de son amant. Or, on le rappelle dans tout cela, Norero était marié. D'ailleurs, il avait fait une confidence à l'un de ses complices en parlant de la belle Landy Paraga. Il avait dit « Si ma femme découvre quelque chose sur elle, je suis foutu ». Depuis, ce trafiquant est mort, tué en détention. C'est d'ailleurs son assassinat il y a 1 an et demi qui a provoqué une vague de meurtres sanglants dans les prisons équatoriennes. Ça avait fait 20 de morts. Mais la veuve de Norero, en revanche, elle, est toujours en vie. Alors, eh bien, les médias locaux relaient cette hypothèse. Et si c'était elle qui avait commandité l'assassinat de la jeune Landy Paraga par vengeance? Quand on sait que l'ex-épouse du trafiquant tremperait elle aussi dans le crime organisé, on la soupçonne en effet de corruption dans un vaste dossier où des policiers et des juges véreux ont déjà été arrêtés.
Merci Guillaume, le récit de Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Est-ce que c'est le début du pont pour vous ce soir? Est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France? Vous vous apprêtez peut-être à profiter de ce très long pont de l'Ascension et pendant ce temps-là, bah, la France tourne au ralenti, voire à l'arrêt. Ça coûte plusieurs milliards d'euros à l'économie, nous dit l'INSEE. Est-ce qu'il faudrait réduire un peu la voilure là? Ou au contraire, vous êtes attaché à tous ces jours fériés, tous ces ponts du mois de mai? Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous allez vous reposer pendant les prochains jours? Racontez-nous au 32-16. C'est à vous de nous dire dans un instant. Je vois déjà Vincent, Gérald qui veulent réagir. Et puis tout de suite, c'est RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux vient en aide à ces bacheliers qui sont en bac pro et qui attendent toujours leur rémunération pour leur dernier stage.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h15. Excellent réveil à tous sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Bonjour.
Alors Solène, aujourd'hui, vous pointez du doigt un dispositif du gouvernement à destination des jeunes qui a pris beaucoup, beaucoup de retard.
Il s'adresse à tous les lycéens qui préparent un bac professionnel pour favoriser ces filières. Le gouvernement a décidé de rémunérer ces stages depuis la rentrée. 50 euros par semaine en classe de seconde, 75 en première et 100 euros en terminale. Axel a fait un stage en septembre dernier. Lorsque son père nous écrit mi-avril, il n'a toujours pas été payé.
On a eu des réponses, surtout savoir si c'était maintenu. Il y a des promesses qui ont été faites et actuellement, elles ne sont pas tenues.
Ouais, au total, Axel attend 800 euros et il n'est pas le seul. Son camarade de classe, Johan, dans le même cas.
C'est quand même national. On est des centaines de milliers à avoir besoin d'une aide.
On va voir les grosses dépenses qui vont arriver. Donc, je pense par exemple au permis. C'est inadmissible qu'il y ait un tel retard et que personne n'en parle.
Et alors, que se passe-t-il avec ce dispositif, Solène ?
Avec Marie-Hélène Altman, nous avons découvert que tous les lycéens en bac pro sont concernés par ce retard. Ça fait plus de 627 000 jeunes. Et le problème a pris une telle ampleur que la porte-parole du gouvernement a dû s'expliquer publiquement. J'annonce aux familles que d'ici la semaine prochaine, 100 000 lycéens verront leur gratification arriver. Et sur les semaines à venir, le reste arrivera. Promesse de Prisca Thévenot le 9 avril. Alors, on a vérifié et à ce jour, selon les chiffres du ministère, 300 000 versements ont été faits, soit la moitié des lycéens. Le rythme annoncé est donc respecté. Axel et Johanna font partie des chanceux, mais ils n'ont été payés que pour leur stage de septembre, pas pour ceux de janvier. Ils attendent toujours 400 euros.
Et comment se justifie le gouvernement ?
Et réponse du ministère de l'Éducation nationale, le processus a pris du retard sur le plan informatique. Il s'agit de la première année de ce dispositif inédit, nous dit-on. Soit, le ministère veut en tout cas rassurer les lycéens, toutes les périodes de formation feront bien l'objet d'un versement avant la fin de l'année scolaire. On vérifiera tout ça, bien entendu.
Évidemment, comme tous les dossiers que vous suivez de très près, Solène Leroux, on compte sur vous ainsi que toute l'équipe autour d'Amélie Rosy, qu'on rappelle d'ailleurs l'adresse pour vous contacter, l'adresse mail RMC avec vous @rmc.fr. Allez, à 5h19, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire si vous êtes team pont ou team boulot à partir de demain. Avec un seul jour de congé posé, vous pouvez vous offrir un très long pont de 5 jours, mais est-ce que c'est pas un peu trop long, justement, trop de jours fériés, trop de ponts? Clairement, la France est au ralenti pendant ce mois de mai.
Et oui, ce sont 4 jours fériés ce mois-ci, un manque à gagner selon l'INSEE de 4 à 6 milliards d'euros.
Oui, et certains secteurs vont tourner au ralenti, le BTP, l'industrie, d'autres se frottent un peu plus les mains, comme la culture, le tourisme évidemment, hein, les hôtels, les restaurants. Alors dites-nous ce matin, est-ce que vous bossez ou pas lors des 5 prochains jours? Tiens, on va accueillir Vincent qui est dans l'Ain. Salut Vincent.
Bonjour Estelle et bonjour Charles.
Salut Vincent. Ah bah Vincent, pour vous j'ai la réponse, prof de maths, donc c'est le début du pont ce soir, c'est ça, hein?
Oui.
Oui, ok. Eh bien, est-ce que on se frotte les mains, non, quand on est prof là, ça fait, parce que vous rentrez à peine de vacances. Alors je sais pas, je sais que pour la zone B, ça a repris à peine hier matin.
Non, nous on a repris la semaine dernière, ce qui fait qu'on a déjà eu le 1er mai.
Ouais.
Ah oui.
Et en fait, moi je trouve que, enfin, pour le, si on regarde l'apprentissage des maths, etc. En fait, les élèves ils vont déjà se sentir en vacances, quoi. Donc je suis plutôt de la team travail d'ailleurs. Là, mes 5e et 4e, ils ont tous un DS comme ça. Ça va quand même me faire travailler pendant ce week-end. Je vais avoir
copies à corriger. C'est contrôle aujourd'hui pour que le prof puisse s'occuper pendant sinon,
Oui, pour essayer de garder quand même un semblant de motivation. Mais clairement, je trouve que comme c'est fait cette année, on vient de sortir de 2 semaines de vacances. Ça casse quand même le rythme. Hein. Surtout que nous, c'est 5 jours fériés, en fait, puisqu'il y a le vendredi d'Ascension, on ne travaille pas, il y a le lundi de Pentecôte.
Oui, il y a le lundi de Pentecôte pour vous aussi.
Donc, c'est énorme, quoi. C'est énorme, en fait.
Ah, mais c'est intéressant, Vincent, parce que alors, je sais que certains se disent, les profs, ils se frottent les mains, ils ont tous les jours fériés, ils font des ponts, etc. Quand on vous entend, non, quand on est prof, même quand on sort à peine de vacances et qu'on a ce mois de mai gruyère avec des trous partout, vous nous dites, non, ça nous complique la tâche au quotidien, parce qu'ensuite, il faut remettre les élèves dans le rythme, il faut quand même boucler le programme en théorie. Hein.
Vous avez tout à fait raison.
Ouais, c'est compliqué. C'est intéressant de vous entendre, Vincent, vous qui ne bossez pas, mais vous plaignez de ne pas bosser ces prochains jours. Bougez pas, Vincent, parce qu'il y a Gérald aussi qui nous appelle du Morbihan, c'est ça? Bonjour Gérald.
Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Gérald, routier, donc je dis du Morbihan, mais peut-être déjà sur la route à cette heure-ci?
Ouais, je suis arrêté parce que je suis pas loin de la maison. Je suis en Ille-et-Vilaine.
Ok.
Parce que je fais un échange de remorque pour récupérer un frigo. Pour rouler demain et après-demain.
Ah bah donc pas de jour férié, pas de pont pour vous.
Ah non. Bah c'est non, quoi les ponts?
tout l'inverse de Vincent. Vincent il subit les ponts.
c'est que pour les Parisiens. Hein.
Ah non. Gérald, non, vous exagérez Gérald. Je suis sûr que dans votre entourage, il y a forcément des gens qui bossent pas demain après-demain.
Oui, parce que j'ai des amis qui arrivent de la région et de la région bordelaise et ils sont en sous-pont, donc oui.
Ah, donc il n'y a pas que les Parisiens, il y a les Bordelais aussi, visiblement. Gérald, il y a quand même une France qui tourne un peu au ralenti. Vous allez avoir du monde sur la route demain. Vous allez avoir toutes les familles sur la route demain, non?
Non, aujourd'hui déjà.
Ah, déjà, ouais, ça prend déjà la route aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez, Gérald? Oui, mais c'est tant mieux, non? Certains se frottent les mains. Je pense aux restaurateurs, aux campings, à tout le littoral, en fait, qui est content de voir arriver des vacanciers, là.
Ah, tout à fait. Non. Moi, je sais que dans le Morbihan, ils sont tous contents d'avoir les tout le monde arrivé et tout ça depuis le week-end dernier. Bien sûr qu'ils se frottent les mains. Manque de peau, il a fait à peine assez chaud.
Ah bah oui, mais ça, ils vont en Bretagne, ils savent qu'ils prennent quelques risques. Bah tiens, justement, Gérald Estelle a la réponse. Est-ce que ça ira mieux ce week-end en Bretagne?
Oui, normalement, ils allaient faire entre 23 et 26 degrés.
Ça, c'est l'été en Bretagne, ça, Gérald. Ça va être magnifique en plus pour le pont.
Moi, ça me va très bien.
Oui, mais vous, ça sera au boulot.
Oui.
Ça
sera dans le camion, je vais dans le sud. Je vais nourrir les Lyonnais.
Exactement. Voilà, il en faut qu'ils bossent justement pour que les autres profitent de ce pont, Gérald. Mais ça vous frustre pas, vous, d'être dans le camion pendant que certains vont passer 5 jours tranquilles?
Ah non, pas du tout.
Ah bah, Gérald.
Parce que je m'en fous complètement.
Et puis il y a RMC pour vous accompagner sur ce trajet.
Exactement.
Ben oui, on va vivre en plus une journée spéciale demain. Je sais que vous allez beaucoup rouler, Gérald. Et ben demain, c'est l'arrivée de la flamme olympique en France, à Marseille. Et ça va être une journée spéciale en direct, évidemment, sur RMC. Donc voilà, il va se passer beaucoup de choses en direct sur RMC pour ceux qui bossent, qui vont nous suivre en direct, évidemment, sur la route. Pour ceux qui prendront la route du pont aussi. Je sais pas si Vincent, notre prof de maths, est toujours là. Vincent, est-ce que, au moins, bon, vous nous dites, ça m'embête un peu ce pont, mais une fois qu'il est là, est-ce que vous en profitez un peu? Est-ce que vous partez un peu pendant ces
cinq
jours?
Oui, quand même, on va partir dans la belle famille. Mais effectivement, j'aurai des copies à corriger aussi.
Oui,
ça c'est le travail du prof.
Je sens que ça vous démange de bosser un peu, donc vous en marquez les copies. Voilà,
ce qui me démange aussi, c'est de suivre le match de soir, et je pense qu'on va bien rigoler avec Daniel Riolo, et je pense qu'il va se frotter les mains si jamais Dortmund se qualifie.
Ah bah c'est oui. Alors voilà.
Vous voyez ce que je veux dire?
Soit.
C'est intéressant à suivre.
En fait, Vincent, je vais vous donner mon prono. Soit Mbappé et les Parisiens brillent et se qualifient, soit c'est défaite, et dans ce cas-là, c'est Daniel qui va briller ensuite dans l'after.
C'est-à-dire qu'à la base, il est supporter parisien, mais je crois qu'il a quand même un problème avec cet entraîneur.
Ah, il y a un petit passif, on va le dire comme ça. Bon, en tout cas, on a déjà hâte d'y être ce soir, évidemment. Le match PSG Dortmund sur RMC, immense soirée dès 18h en direct du Parc des Princes. Vincent, on l'entend, ne manquera pas ça. On ne manquera pas non plus l'arrivée de la flamme demain, journée spéciale. L'arrivée de la flamme à Marseille, c'est à vivre sur RMC, radio officielle des JO. Et ça, je sais que Gérald le suivra sur la route, notre routier courageux. Je vous remercie tous les deux, Vincent et Gérald, d'être venus témoigner ce matin en direct sur RMC. Bon, Vincent qui ne bossera pas, mais qui aurait presque aimé bosser demain. Gérald, lui, qui sera au boulot. Dites-nous, vous, au 32-16 ce matin, est-ce que pour vous, c'est le début du pont ce soir ou au contraire, vous faites partie de ces courageux qui vont continuer à bosser jusqu'à la fin de semaine? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h30 qui approche. Tiens, avec à la une, l'ambiance qui s'annonce bouillante ce soir au Parc des Princes pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Vous allez l'entendre. Ensuite, ce sera la bande de Charles Matin, toute l'équipe qui va nous rejoindre. Jordan Olivier, justement, nous parlera du dernier match en Ligue des Champions de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Anthony Morel va se transformer en super soldat du futur dans C'est déjà demain. Mais tout de suite, avec toi, Estelle, c'est la solution conso.
Et oui, vous avez peut-être envie de vous faire construire une piscine avec les beaux jours, et bien je vais vous donner quelques conseils.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
5h26, vous êtes bien sur RMC, et comme chaque matin en direct, Estelle s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Oui, Estelle, on parlait de ce pont là qui débute avec du beau temps annoncé un peu partout, et ça donne peut-être l'envie à certains de se faire construire une piscine.
Oui, alors Charles, on le sait, la piscine, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais près d'un quart des Français en possèdent une, et 40% rêvent d'en avoir une, et en plus elle peut faire grimper la valeur de votre logement à la revente. La plus-value que vous pouvez espérer sera d'autant plus intéressante si vous vivez dans une ville ensoleillée ou loin de la mer, selon Meilleurs Agents. Il n'est pas nécessaire de construire une grande piscine, les mini-piscines de moins de 10 mètres carrés, on la cote. Elles permettent notamment de disposer d'un point d'eau pour se rafraîchir sans occuper trop d'espace. Et puis, vous ne payez pas d'impôt dessus et pas besoin de déclaration préalable de travaux ni de permis de construire.
Mais alors, quel est le meilleur moment pour la faire construire?
Eh bien, entre septembre et février, même si la météo sera tout de même moins avantageuse qu'au début du printemps, mais il est possible d'obtenir de meilleurs tarifs en cette période creuse. N'hésitez pas à établir 2-3 devis avant de choisir votre pisciniste. Ce dernier doit être labellisé pro-piscine, avoir plus de 3 ans d'existence et disposer d'une garantie décennale. C'est une assurance souscrite par le pisciniste qui couvre son client pendant 10 ans en cas de sinistre sur la piscine.
Et donc, c'est moins cher en hiver. Donc là, c'est trop tard. Si on veut que ça ne soit pas trop cher...
envoyer ça l'année prochaine.
Il faut attendre ça, voilà, pour l'automne prochain. Et puis alors, autre débat, piscine hors sol ou piscine enterrée ?
Eh bien, les piscines hors sol sont moins chères, entre 500 et 5000 euros. Elles se vendent pour la plupart en kit. Et en plus, vous mettez une journée maximum pour la construire, alors que les piscines enterrées coûtent, elles, entre 15 000 et 50 000 euros. Et elles se construisent en 3 mois. De plus, soyez sûr de l'emplacement de votre piscine, puisqu'avant de la construire, assurez-vous qu'elle se trouve à plus de 500 mètres d'un monument historique, d'un site classé ou encore d'un secteur sauvegardé. Si tel n'est pas le cas, les architectes de Bâtiments de France doivent donner leur accord dans un délai qui est compris entre 1 et 4 mois.
Mais ça fait un peu rêver quand même. On s'y voit déjà dans la piscine à la veille de ce grand pont de l'Ascension, 5h28.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et on se fait plaisir tout de suite avec le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Tiens, Arnaud qui nous a parlé hier de Bruno Le Maire qui a accidentellement percuté un cycliste avec sa voiture.
Mais ça n'a pas dû être facile pour Bruno Le Maire. Il a dû sortir tout de suite de sa voiture. Monsieur ! Monsieur, enfin ! Faut pas faire ça, vous vous rendez compte de ce que vous allez coûter à la sécurité sociale ? Il y a un ambulancier qui est venu. Ça va, ses jours ne sont pas en danger. 15 jours à l'hôpital et ça ira. 15 jours ! C'est cher ! Vous voulez pas descendre à 10 ? Ou alors je roule dessus une deuxième fois discretos pendant... Non, je m'occupe de lui. Monsieur, vous allez bien ? Oh mais c'est Bruno Le Maire ! J'adore ce que vous faites, je vais voter Valérie Ayer aux européennes. Oh mon Dieu, il délire, la tête a été touchée.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure, évidemment, dans Apolline Matin. Mais tout de suite, Estelle, avant le journal de 5h30, on va faire un point complet sur la météo du jour. Bon, c'est toujours assez gris ce matin, mais ça va s'améliorer au fil de la journée.
Oui, c'est toujours gris, hein, notamment avec ces nuages de l'île à Bray jusqu'au Pays de la Loire. Un ciel bien couvert avec quelques averses de la Rochelle à Nevers jusqu'à l'Occitanie et les Pyrénées-Atlantiques. Et puis de la pluie également sur la façade est du pays cet après-midi. Toujours des nuages sur le sud-ouest du pays avec ses quelques averses et ses coups de tonnerre. Et puis sur les Pyrénées-Orientales et le Tarn, ainsi que du Haut-Rhin à la Savoie sur le reste du pays. On alternera entre éclaircies et averses, sauf de la Vendée au nord où il ne devrait pas pleuvoir. 5 à 14 degrés ce matin. Et puis dans l'après-midi, 16 à Toulouse, 20 à Montpellier, jusqu'à 21 à Ajaccio.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
RMC 5h30.
RMC Charles Matin.
Excellent réveil à tous. Bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble, vous le savez, le matin sur RMC pour vous informer. Votre journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le Paris Saint-Germain à 80 minutes, 10 minutes du bonheur. Les Parisiens doivent l'emporter ce soir face à Dortmund pour accéder à la finale de Ligue des Champions dans un Parc des Princes qui s'annonce plus bouillant que jamais. L'espoir d'une trêve s'éloigne au Proche-Orient malgré l'accord du Hamas hier trop éloigné des exigences d'Israël qui pour suit ses frappes sur Rafah. Et puis, une offre de soins inadaptée. Dans un rapport publié hier, la Cour des comptes pointe du doigt les petites maternités qui ne permettent pas d'assurer un niveau de sécurité suffisant, dit.
Paris face à son destin ce soir.
Battu 1-0 la semaine dernière à Dortmund, place au match retour. Le PSG doit renverser la situation ce soir pour se hisser en finale de Ligue des Champions. Des Parisiens très attendus sur le terrain et pour les aider dans leur quête, plus de 48 000 supporters prêts à tout donner ce soir dans un Parc des Princes qui s'annonce bouillonnant, Lioulien Bouffneuf.
Oui, le Parc des Princes sait se faire entendre et encore plus pour l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire. Pour battre Dortmund, le PSG aura besoin de ses supporters et Marquinhos le sait.
Nous, on attend que tout un peuple, tout un stade, toute une ville soit avec le Paris Saint-Germain demain parce que c'est un match très important.
Message reçu par les supporters parisiens qui promettent l'enfer aux Allemands.
Le parc, c'est mythique de base, mais alors demain, c'est plus mythique. Ça va être légendaire demain ce qui va se passer.
Rien que quand Dortmund a 4000, c'est nous qui faisons le plus de bruit, alors... Je pense que demain,
c'est 30 000 qui vont chanter.
Ils sont pas prêts. Hein.
Tifo XXL, pyrotechnie, tout sera fait pour que l'ambiance exceptionnelle demandée par le président Nasser El Khelaïfi soit au rendez-vous. Luis Enrique, lui, n'en doute pas une seconde.
Le rôle des supporters sera vital et nous avons une garantie absolue du fait qu'ils soient à fond derrière nous. Ils l'ont été toute l'année, surtout lorsque nous en avions besoin.
29 ans après sa dernière demi-finale de Ligue des Champions à domicile, le Parc des Princes ne demande qu'à s'embraser pour que le PSG puisse enfin rêver plus grand.
Soirée spéciale PSG Dortmund à vivre sur RMC en direct du Parc des Princes dès 18h et jusqu'à 1h30 du matin avec l'afterfoot et la libre antenne. Le foot toujours avec la désillusion pour Lille hier soir battue par Lyon en Ligue 1 en tête avec 2 buts d'avance. Les nordistes s'inclinent finalement 4-3. Il est 5h passé de 33 minutes. Vous êtes sur RMC. 366, c'est le nombre d'actes antisémites en France sur les 3 premiers mois de l'année. Un chiffre en hausse de 300% par rapport à l'an dernier, dévoilé hier soir par Gabriel Attal lors du dîner annuel du CRIF. Pas un acte ne doit rester impuni, pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille, lance le Premier ministre qui dénonce une déferlante. L'inquiétude perdure ce matin à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où les bombardements se poursuivent. L'État hébreu entend accentuer la pression sur le Hamas, qui a approuvé hier soir un accord de cessez-le-feu, un accord trop éloigné des exigences d'Israël, a fait savoir le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une délégation qatari est d'ailleurs en route ce matin pour le Caire en Égypte, où de nouveaux pourparlers doivent reprendre. Mais pour David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, l'espoir d'une trêve s'amenuise.
Il y a une certaine confusion, ou une confusion certaine, hein, dans les annonces qui se télescopent. On peut s'interroger sur effectivement le changement de pied, on va dire, du Hamas en 24 heures. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'effectivement le Hamas ait réalisé que l'obstruction qu'il avait manifestée de principe le week-end a entraîné mécaniquement le lancement d'une opération sur Rafah, et que ce serait une manière pour eux de, à défaut de l'empêcher, de la différer ou de la ralentir, ce qui est peu probable. Et là, on trouve effectivement une forme d'annonce à contre-temps et qui peut ne satisfaire personne.
Emmanuel Macron et Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées ce mardi. Le président qui a remercié hier son homologue chinois pour ne pas imposer de taxes douanières provisoires contre le cognac français. Un soulagement pour la filière qui faisait l'objet d'une enquête anti-dumping lancée par les autorités chinoises au début de l'année. Les petites maternités dans le viseur de la Cour des comptes. Dans un rapport publié hier, les sages s'interrogent sur l'efficacité des moyens alloués aux politiques de périnatalité, pointant Martin Cadoret des résultats sanitaires médiocres en la matière.
Oui, car les maternités assurant moins de 1000 accouchements par an sont particulièrement vulnérables. Difficile de recruter suffisamment pour appliquer la continuité des soins, explique la Cour des comptes, qui préconise de repenser l'offre, ce qui rend furieuse Michel Leflon, qui milite pour rouvrir la maternité de Sedan, qui a fermé il y a un an.
C'est vraiment pour jouer un rôle de Cour des comptes, à dire on dépense trop. Il y a besoin de maternité de proximité. Quand c'est à côté, s'il y a un doute, on y va tout de suite. La question, c'est bien comment on met dans ces lieux-là les personnels qui sont nécessaires.
La Cour des comptes explique que les petites maternités ne permettent pas d'assurer un niveau de sécurité suffisant pour les femmes. Constat partagé par le professeur Olivier Morel, membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens.
Quand vous avez moins de 500 naissances par an, vous avez des complications qui vont survenir pas assez souvent pour garder un niveau de compétence. Donc le jour où ça arrive, vous êtes complètement démunis, vous n'avez pas de collègues en renfort.
Ce qui fonctionne, en revanche, souligne la Cour des comptes, c'est de transformer ces petites maternités en centre périnatal de proximité qui assure l'ensemble du suivi à l'exception de l'accouchement.
Alors faut-il les fermer, ces petites maternités, en tout cas pousser les femmes à accoucher uniquement dans les grandes maternités, comme le préconise la Cour des comptes? Eh bien oui, répond mon invité tout à l'heure à 6h10, le professeur Yves Mille, chef de service de la maternité de l'hôpital Necker à Paris. Lui aussi plaide pour la fermeture de ces petites maternités. Racontez-nous, tiens, vous qui vivez peut-être loin d'une maternité, est-ce que ça vous gêne l'idée d'accoucher, de devoir faire plus de kilomètres, plus de distance, d'être plus loin de votre future maternité? On vous attend évidemment ce matin pour témoigner au 32-16.
Bison futé voire rouge en départ ce mardi sur l'ensemble du pays. Il est recommandé de quitter ou de traverser l'île de France avant midi, d'éviter les grands axes cet après-midi. Première difficulté dès la fin de matinée, c'est la conséquence du grand pont de mai. C'est férié demain, c'est férié jeudi, un calendrier qui pose question quand on sait que les élèves de la zone B ont repris les cours hier. Reportage dans l'Oise, Romain Poiseau.
Imaginez un peu, presque 3 semaines de vacances d'affilée avec une petite pause de 2 jours de cours.
Faire avec, voilà.
Émile, en seconde, tient bon avant la rentrée.
Là, je pars au Touquet.
Même si parfois c'est compliqué d'avoir de si longues vacances de printemps.
Franchement, ça va aller. On est déjà habitué, par exemple, pour les grandes vacances, on a 2 mois. Donc 3 semaines, je pense que ça va. Bah, on reste à la maison, on sort dehors avec les copains, voilà. Bon, c'est cool.
Oui, ça semble cool. Louis passe son bac cette année, alors promis, pour ce pont, il révisera ses fiches.
Pendant les vacances, j'ai pas énormément bossé. Désolé maman si tu vois ça, mais j'aurais pu faire un petit peu mieux. Maman, je t'aime et je travaille aussi énormément à la maison.
Et figurez-vous qu'en seulement 2 jours de cours, les professeurs ont chargé de travail leurs élèves.
Les profs nous ont donné beaucoup de devoirs.
C'est rien, ça va passer, on est loin du bac.
C'est du pipeau pour Tissam, la maman de Nassilia.
C'est tous des glandeurs, les collégiens c'est des glandeurs. Elle est toujours fatiguée, elle fait que dormir.
Il y a trop de vacances, un point c'est tout.
Ça fait trop avec les fériés, les vacances, les... j'ai l'impression qu'ils sont constamment en vacances. Quoi.
Allez, on tient bon, plus que 2 mois et ce seront les vraies grandes vacances.
Ah tiens, est-ce qu'il y a trop de jours fériés? Est-ce qu'il y a trop de ponts? Dites-nous, ce matin c'est notre débat hein, au 32-16, cette France qui tourne à l'arrêt, en tout cas au ralenti pendant les 5 prochains jours. Est-ce que c'est le début du pont ou est-ce que vous bossez jusqu'à la fin de semaine? Venez témoigner ce matin au 32-16, vous faites peut-être partie des courageux comme Thibaut Texer qui va bosser évidemment jusqu'à vendredi en direct sur RMC. Bien pas sûr, de jour férié, on sera là tous les matins pour vous informer. On termine ce journal avec le prono des courses. Aujourd'hui, c'est du côté de Chantilly.
Et c'est à 13h55 sur RMC Découverte, le 5 Denver Shop et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6 Restive, le 5 et le 6.
C'est noté, c'était le journal donc de Thibaut Texer qu'on retrouve tout à l'heure à 6h30 en direct sur RMC et RMC Story. Et puis tous les matins, ça se passe tous ensemble sur l'appli RMC, sur Direct Studio. On surveille tous vos messages avec Estelle.
Et oui, et concernant les jours fériés, y en a-t-il trop en France ou non? Vincent nous répond non, il n'y a pas trop de jours fériés. Perso, ça sera pont suivi du congé paternité. Je compte bien en profiter.
Génial, Vincent, ça.
On a Michel qui nous dit « Je suis conducteur de tram à Grenoble et pas de jours fériés. » Et puis Christelle, je suis aide-soignante et j'ai changé des jours avec mes collègues pour ne pas travailler tous les jours fériés. Et puis Béatrice, il faudra bien toute la semaine pour fêter la victoire du PSG.
Oui, c'est vrai. C'est très bien qu'il y ait un jour férié le lendemain pour ceux qui feront la fête ce soir. Vous continuez à témoigner évidemment sur l'appli RMC, mais aussi sur Direct Studio. Et puis à 5h39, c'est l'heure de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Oui, vous qui suivez toute l'actu le matin sur RMC, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Qui joue son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes?
Ah, c'est ce soir, c'est l'événement, c'est évidemment à vivre sur RMC. Si vous avez le nom de ce joueur, bon, je pense que tout le monde l'a. Hein. Évidemment, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tir au sort, vous serez avec nous à l'antenne à 6h20 pour gagner un radio réveil de la marque Muse.
Mais oui, le radio réveil dernier cri, il est pour vous si vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu tous les matins et c'est avec Romain Cluzel aujourd'hui. Bonjour Romain.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Bonjour.
Alors Romain, ce matin on parle de la fin de vie. Après 2 semaines d'audition à l'Assemblée, les députés ont jusqu'à 17h aujourd'hui pour déposer leurs amendements en commission et plusieurs points de crispation, plusieurs sujets de débat émergent déjà.
À commencer par la définition même de l'aide à mourir. Le texte du gouvernement n'évoque pour l'instant que ce terme, aide à mourir. Dans ce texte, on ne peut plus sensible, chaque mot est pesé pour éviter de braquer un camp. Mais plusieurs députés souhaitent aller plus loin que le cadre fixé par Emmanuel Macron en utilisant les termes suicide assisté, voire euthanasie, pour définir plus clairement les possibilités offertes par le texte. Et puis, le principal sujet de débat concerne les critères pour accéder à cette aide à mourir. Le texte indique qu'il faut être atteint d'une maladie grave, incurable, avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Et c'est cette dernière partie qui pose problème, tout simplement parce que les médecins auditionnés par les parlementaires ont toutes les peines du monde à définir ce moyen terme. Plusieurs questions restent en suspens. Est-ce qu'on parle de 6 mois d'espérance de vie, 12 mois? Est-ce que ce pronostic est vraiment fiable? Cette définition, elle exclut aussi des patients atteints de la maladie de Charcot ou des personnes atteintes de handicap lourd qui ne sont pas en danger de mort imminente. Résultat, plusieurs parlementaires de gauche comme de droite souhaitent retirer la mention moyen terme, quitte à s'en tenir aux personnes en danger de mort à court terme et donc réduire le nombre de patients potentiellement concernés.
Et Romain, le débat se concentre aussi sur la personne qui pourrait administrer le produit létal.
La règle générale prévoit que le patient lui-même fasse le geste, sauf en cas d'incapacité physique. Un proche pourrait alors le faire et cette possibilité interroge de nombreux députés. Combien de temps à l'avance faut-il désigner ce proche? Comment savoir si cette personne le fait librement, sans ressentir un fardeau? Et quel accompagnement psychologique après la mort du patient? Des socialistes, par exemple, souhaitent supprimer cette option. Seul un médecin pourrait alors aider activement un patient à mourir. Les médecins, justement, auront le droit à une clause de conscience, le droit de refuser d'accompagner un patient qui veut bénéficier de l'aide à mourir. Quelques parlementaires veulent aller plus loin et proposent une clause de conscience collective qui s'appliquerait à tout un établissement. Un député prend l'exemple d'une clinique privée rattachée à l'église, mais à l'Assemblée, cette proposition fait quasiment l'unanimité contre elle.
Merci Romain. Romain Cluzel pour ses indiscrets. Romain du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
6h20, toute la bande est là. Ça y est, ils sont réunis autour de la table. On va parler sport dans un instant avec Jordan Olivier.
On va parler de Kylian Mbappé, plus précisément, qui pourrait disputer ce soir son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain.
C'est déjà demain, Anthony Morel.
On va parler du soldat du futur, un mélange entre Iron Man, Captain America, Robocop, un peu tout ça en même temps, finalement, grâce à la technologie.
Toutes tes passions réunies, si j'ai bien compris, Anthony. Il y aura aussi évidemment le bonus avec Estelle.
Il y a le PSG ce soir et puis il y a Slimane samedi soir à l'Eurovision.
Oui, c'est vrai, c'est l'autre événement européen. Et puis il y a aussi Magali, Myriam que je vois au 32-16, elles veulent toutes les deux témoigner. Tiens, sur cette question, est-ce que demain vous bossez ou vous faites le pont? Est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France? Magali et Myriam s'installent autour de la table tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Charles Magnin.
6h15. Vous êtes bien sûr RMC, on est tous ensemble ce matin. Mais tiens, une question, est-ce qu'on sera tous ensemble demain? Mais oui, parce que demain c'est le pont. Bah attendez, on va faire un petit quiz autour de la table. On va voir à partir de demain. Il y a une bonne partie de la France qui s'arrête. En tout cas, ça va tourner au ralenti. Certains ont la chance de s'arrêter pendant 5 jours. Alors, est-ce qu'Anthony Morel sera là demain?
Présent. Fidèle au poste.
Un jour férié, évidemment, il bosse. Est-ce que Estelle Gass sera présente demain?
Présente.
Aujourd'hui et demain, jusqu'à la fin de semaine. Anthony, Estelle. Jordan Olivier, même question?
J'aime bien me différencier des autres, je vais dire absent.
Ah, j'ai trouvé le chanceux du jour, vous pouvez le huer. Mais alors vous, dites-nous ce matin, est-ce que vous bossez ou pas demain? Bah tiens, Magali et Myriam vont s'installer toutes les deux autour de la table avec nous tout de suite au 32-16. Bonjour Magali.
Bonjour. Bonjour l'équipe.
Bonjour. Salut, et Magali. Bonjour Myriam.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour. Alors commençons avec Magali, on est en Charente-Maritime, c'est ça avec vous Magali?
Tout à fait.
Agent d'entretien, c'est ça? Vous êtes déjà levé tôt là pour le boulot ce matin?
Ah bah oui, j'y suis déjà depuis un moment.
Ah là, déjà même. Au boulot, courageuse du matin avec RMC Magali, mais est-ce que vous y serez demain?
Bien sûr,
c'est pas évident. Ah bah Magali, je suis sûr que vous avez des collègues, je sais pas, des amis, de la famille qui s'arrêtent pendant 5 jours là.
Oui, mais pas où j'habite, parce qu'on est une zone touristique, donc nous on bosse tous.
Eh bien donc
on nous accueille tous.
Exactement. Les Parisiens, je ne sais pas pour vous, les Bordelais, les Nantais vont débarquer.
C'est ça, tout le monde.
Mais tant mieux, non? On se frotte un peu les mains aussi.
Bah pour le commerce, oui. Mais bon, après, comme je disais dans mon message, il y a deux teams quand même. Les chanceux qui sont contents, il y a beaucoup de jours férieux, et les rageux comme nous qui sont obligés de bosser.
Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu plus douloureux quand on bosse et qu'on sait que les autres ne bossent pas. Mais alors Magali, bah, vous avez trouvé, je pense, un peu de solidarité du côté de Myriam, parce qu'on part dans la Drôme avec Myriam, c'est ça? Et Myriam, vous êtes commerçante?
Oui, moi je serai présente.
Ah, et un commerce ouvert les jours fériés?
C'est ça, le matin. C'est l'après-midi, je me repose.
Ah, donc le matin, c'est ça. C'est un. Alors, de mémoire, Myriam, moi j'ai le souvenir, c'est une épicerie dans un commerce alimentaire?
C'est ça, ouais. Une c'est petite épicerie, ouais.
Ouais, dans la Drôme à Saillant, c'est ça précisément?
C'est ça.
C'est très ça. Bien, alors, attendez, si je dis pas de bêtises, vous êtes pas loin de l'église, non?
C'est ça, en face.
En face de l'église, voilà.
Mémoire.
Ouais, ah bah oui, mais je.
Ah bah c'était la semaine dernière.
Je sais que Myriam voilà, est passée nous voir il n'y a pas longtemps au 32-16. Voilà. Mais alors Myriam, la Drôme, c'est aussi un coin touristique. Donc vous avez tout intérêt à ouvrir.
Ah oui, oui. C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais oui, si, il faut ouvrir. On a des campings pour vous accueillir, des chambres d'hôtes. On a tout, des gîtes.
Ah, ça donne envie hein, d'y être, Myriam. Mais voilà, Magali disait, on est obligé de bosser. Mais oui, vous n'avez pas vraiment le choix demain, Myriam. Ce serait comment dire, contre-productif de fermer alors que les touristes arrivent.
Oui, c'est ça. C'est un début de saison, on va dire.
C'est un bon début de saison, non? Parce que là, il y a avec
ce. La Drôme est belle, en espérant que le soleil sera présent.
Oui.
La Drôme est magnifique pour faire du canoë.
Ah bah tiens,
tout est parfait.
On va faire un point météo pour tout le monde, justement. Voilà. Myriam et Magali, Estelle a les infos. Est-ce que c'est parti pour 5 jours de beau temps, d'abord dans la Drôme?
Dans la Drôme, c'est parti pour 5 jours de beau temps avec maximum 23 degrés. Et en Charente-Maritime, maximum 28 degrés. Très beau également.
Ah bah, donc bah voilà, Magali, je ne sais pas si vous avez une longue amplitude horaire, si vous avez le temps, je sais pas, de profiter un peu du beau temps après la matinée au boulot, Magali. Mais il y aura quand même un petit parfum de vacances, non? S'il y a du monde à la plage et tout, là, pendant 5 jours.
Ah oh ben oui, puis il y a les enfants à la maison, donc c'est sûr que ça sentira les vacances.
Oui, alors je sais pas si c'est très reposant, mais je sais pas si ça sera des vacances pour maman, mais en tout cas eux ont un petit parfum de vacances évidemment. Mais alors d'ailleurs Magali, tout à l'heure on a Vincent là qui est prof, qui nous a dit que c'est très compliqué de faire bosser les élèves en ce moment parce que ils sont à peine rentrés de vacances qu'ils se retrouvent avec 5 jours de congé à nouveau quoi. C'est presque voilà 3 semaines de vacances pour les enfants en ce moment. Magali, est-ce que c'est pas trop compliqué là de leur faire reprendre le rythme de l'école avant de se réarrêter pendant 5 jours?
Oh ben si, mais ils ne sont plus du tout dedans. Et moi, je vais vous dire, moi, les deux miens sont au collège Et même quand il n'y a pas de jour férié, ils nous trouvent quand même encore des journées à enlever pour des révisions pour le brevet.
Ah oui,
pour les autres. Oui. Donc, je vais vous dire, franchement, on a regardé presque toutes les semaines au mois de mai. Il y a minimum une journée où ils n'y sont pas.
Ouais, donc forcément, donc
c'est trop compliqué
de boucler le programme et d'avoir un rythme d'apprentissage, évidemment. Bon, Magali et Myriam, bougez pas parce que on a plein d'infos à partager avec vous. Alors, on va donner la parole à celui qui va faire le pont. C'est le seul d'entre nous, hein. Magali, Myriam, Estelle, Anthony et moi.
On laisse repartir.
On sera là, on sera au boulot demain. Et puis, il y a Jordan qui doit filer, là, j'imagine, qui part au soleil, peut-être dans la Drôme, dans un instant. Mais avant, quand même, une petite story sport. Faut encore bosser un peu, Jordan, puisqu'on va parler du PSG qui affronte Dortmund ce soir. Objectif, décrocher un ticket pour la finale. Ça pourrait être aussi, le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes.
Évidemment, toujours rien d'officiel concernant l'avenir de Kylian Mbappé, mais plus les semaines passent, plus les chances de le voir quitter la capitale française semblent importantes. L'occasion donc pour le nouveau numéro 7 rouge et bleu de laisser encore un peu plus sa trace dans l'histoire du PSG ce soir. Lui qui a déjà inscrit 42 buts en 63 rencontres de Ligue des Champions avec Paris. Alors forcément, les supporters comptent sur lui ce soir.
J'espère qu'il va nous sortir, pourquoi pas, un doublé ou un triplé. Hein.
C'est le numéro 9, c'est la France, c'est le joueur français. Et s'il va être au-dessus des grands noms, CR7, Messi, c'est aujourd'hui.
Ouais, on entend les fans du PSG plutôt confiants. Pourtant, c'est pas toujours le grand amour entre Mbappé et les supporters parisiens.
Comme dans toutes les belles histoires, il y a effectivement des hauts et des bas. Certains lui reprochent parfois son manque d'investissement sur et en dehors du terrain. On lui reproche également de ne pas montrer suffisamment son attachement au club. Et si l'amour dure 3 ans, le PSG et Mbappé ont malgré tout réussi à passer ce cap. Déjà 7 ans de relation, parfois contrarié par la tentation d'aller voir ailleurs, à Madrid par exemple. Et c'est aussi cela qui peut agacer le manque de transparence quant à son avenir. Je vous propose quand même d'écouter ce supporter. Pour lui, la rupture entre Mbappé et le PSG n'est pas encore actée.
Pour moi, c'est pas son dernier match. Sur ça, je suis confiant, c'est pas son dernier match. On gagne la Ligue des Champions, Kylian il fait demi-tour sur le périph. Et Florentino, désolé.
Désolé, ouais. Florentino. On voudrait bien le croire, ce supporter, comme on voudrait bien croire Luis Enrique, qui a l'air très confiant pour la rencontre de ce soir.
C'est la seule phrase que je connais en français.
On va gagner.
On va gagner, ah oui.
Je ne sais dire que ça, et comme c'est une phrase que j'aime, je pense toujours que mon équipe va gagner.
On va gagner, bien sûr.
Il ne parle toujours pas couramment français, mais il a quelques notions quand même.
Il a 3 mots essentiels. On va gagner, dit Luis Enrique. Ce sera donc ce soir. Évidemment, ça commence à 18h, cette soirée spéciale sur RMC, en direct du Parc des Princes. L'after après le match, évidemment, jusqu'à 1h30 au Parc. Et puis la libre antenne ensuite jusqu'à 1h30. Est-ce qu'on y croit pour ce soir? On va écouter les pronos de Myriam et Magali. On va commencer par Myriam. Je ne sais pas, Myriam, si dans la Drôme, on est à fond derrière le PSG ce soir?
Non.
Je m'attendais un peu à ce rire, Myriam, mais le prono, alors c'est quoi pour ce soir? Vous espérez une victoire de Dortmund?
J'espère pas, mais je vais demander à mon mari.
Mais il est là, il est à côté de vous, Myriam?
Oui, il est là.
Passez-le nous, posez-lui la question.
Allez chérie.
Bonjour. Mais je ne sais même pas comment il s'appelle votre mari, Myriam. Bonjour.
Bertrand.
Salut Bertrand, Charles, enchanté. Bienvenue sur RMC. Oui. Je discutais avec votre épouse Myriam qui me disait que vous n'étiez pas forcément le fan numéro 1 du PSG ce soir.
Pas vraiment, non. Moi je suis plutôt blanc et bleu, si vous voulez, avec une petite étoile sous le
bleu. Oui, je sais, à jamais les premiers, tout ça, ça sera jeudi soir. Mais du coup, le petit prono pour ce soir, Bertrand.
Oh, moi, je donnerais bien un petit 2-1 pour Dortmund, c'est pas mal.
Pour Dortmund, le 2-1. Donc, une qualif des Allemands ce soir pour vous, Bertrand. Je vais aussi poser la question à Magali. Là, dans la Drôme, on est plutôt supporter de Dortmund ce soir. Magali, du côté de Royan, est-ce qu'on est plutôt pour le PSG ce soir?
Alors, pour mon mari et ma fille qui sont pour le PSG, c'est 3-1 pour le PSG. Et pour mon fils et moi qui sommes pour Marseille, c'est 2-1 pour Dortmund.
Ça doit faire des belles soirées à la maison, ça, tous les quatre, Magali.
Je peux vous le dire, surtout ces semaines-là.
C'est une belle semaine en perspective. Ce soir, tous les quatre devant le PSG et jeudi soir devant l'OM. Heureusement qu'il y en a qui se reposent le lendemain avec des jours fériés. Mais vous, Magali, courageuse du matin et ensuite les soirées animées à la maison. Sacrée semaine pour vous, Magali. Évidemment, on va suivre tout ça. On remercie aussi Bertrand, le mari de Myriam, d'être passé au 32-16. C'est comme ça. La bande qui s'élargit. l'énergie en direct sur RMC avec donc Anthony Morel. Bah oui, je me tourne vers toi, Anthony. Je te demande pas ton prono parce que je pense que t'es le moins connaisseur d'entre nous.
Ouais. Après, si on voilà, peut pas faire des pronos.
C'était le prono d'Anthony.
Ça coûte rien.
Passons à ton champ de compétences. Toi, c'est la tech et désormais l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser les champs de bataille. Le soldat de demain sera augmenté grâce à la technologie et se transformera en une sorte de super-héros.
C'est ça, avec plein de super-pouvoirs, ne jamais rater sa cible, voir à travers les murs, être protégé par un bouclier presque magique. Voilà quelques exemples très concrets et qui sont utilisés dès aujourd'hui. C'est pas pour dans 50 ans ce dont je vous parle sur certains champs de bataille. Tiens, je vous donne un exemple. Le smart shooter, une lunette de visée qui transforme n'importe quel soldat en tireur d'élite potentiel. On s'en sert notamment dans la lutte contre les drones. Donc il y a une intelligence artificielle intégrée qui va verrouiller une cible jusqu'à 250 mètres d'altitude. C'est-à-dire que le soldat humain, il regarde dans la lunette, il voit un petit point noir au loin, il voit pas grand-chose, mais la lunette, elle va suivre au millimètre près et lui indiquer à la seconde près quand appuyer sur la détente, et ça permet de réussir à tous les coups. On peut aussi citer une technologie, une caméra intelligente qui permet de voir à travers les murs. On peut en fait détecter à travers du ciment, des briques ou du béton la présence d'une personne, voir si c'est un adulte, un enfant, un animal, si elle est assise, debout ou couchée. On va pouvoir s'en servir par exemple dans les missions de sauvetage ou de renseignement. Et puis bien sûr, il y a les robots compagnons intelligents qui vont accompagner les soldats sur le terrain. C'est l'objectif du projet Vulcain en France. D'ici 2040, on aura des robots qui vont accompagner les soldats. Alors ça peut être des mules pour transporter les équipements, ça peut être un robot bouclier qui se déploie pour protéger les fantassins, etc., etc., etc.
Oui, mais alors là, dans tout ce que tu décris, pour l'instant, la tech, l'intelligence artificielle vient en soutien du soldat humain, vient l'aider. Mais ensuite, il va y avoir des points qui feront terriblement débat quand ces robots vont devenir complètement autonomes et prendront eux-mêmes des décisions.
Alors c'est ça, il y a toute la question de ce qu'on appelle, d'une façon un petit peu alarmiste peut-être, les robots tueurs. C'est le terme marketing, le terme technique, c'est les systèmes d'armes létaux autonomes. En fait, c'est le mariage des armes et de l'intelligence artificielle, autrement dit des armes qui sont capables de verrouiller elles-mêmes une cible et de prendre la décision sans demander aux êtres humains de tirer sans aucune intervention humaine, avec des résultats qui sont beaucoup plus efficaces, si l'on peut dire, que le meilleur des snipers ou des pilotes de chasse. Évidemment, il va falloir légiférer, réglementer tout ça. Il y a eu une décision de l'ONU, 152 pays qui ont voté il y a quelques mois pour une résolution pour limiter l'utilisation de ces outils, mais on sait très bien qu'un certain nombre de pays continuent à les développer à marche forcée.
Mais c'est pour ça qu'il faut absolument réglementer et être informé au maximum, notamment grâce à toi, Anthony, chaque matin sur RMC. Et puis on va suivre aussi, tiens, cette semaine, un autre événement. Bah oui, il y a le foot, il y a la flamme, il y a Taylor Swift qui arrive jeudi en France. Et ce week-end, il y a l'Eurovision. Et Slimane est déjà dans les starting blocks.
Et oui, Slimane est déjà à Malmö, où les premières répétitions viennent d'avoir lieu à huis clos. Mais on a eu droit à un premier extrait de sa prestation.
Si tu ne viens pas, je t'attendrai.
Mon amour, c'est le titre de cette chanson qu'il interprétera donc samedi soir, où l'on sait déjà que Slimane passera en deuxième partie de soirée, ce qui est un bon présage selon les spécialistes. Moi, j'y crois pour ma part. Oui, est-ce que vous y croyez?
Oui, les pronostics sont assez favorables à Slimane.
Comme tous les ans.
Comme tous les ans. L'année dernière, c'était un
fiasco
avec Lazara.
C'est sûr.
Bon, on va arrêter de jouer au prono, que ce soit sur le foot ou sur l'Eurovision. On va remercier Magali et Myriam d'être venus partager avec nous. Et puis, on va remercier même aussi Bertrand, le mari de Myriam. Vous savez quoi, Myriam? Je vous envoie deux coques pour smartphone, d'accord? Une pour vous, une pour Bertrand. Et puis, tiens, même chose pour Magali. Magali, vous êtes encore là. Magali, j'en envoie deux aussi du côté de Royan. Une pour vous et pour votre mari, parce qu'il soutient le PSG ce soir. Vous, l'OM, jeudi, j'ai bien compris. Magali et Myriam, les courageuses qui bosseront demain, après-demain. Et on sera là aussi, évidemment, en direct avec vous sur RMC. Vous faites comme Magali et Myriam. Vous passez quand vous voulez, vous le savez, au 32-16. Bon réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct le matin, c'est sur RMC, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'espoir plus que jamais d'une trêve dans la bande de Gaza. Le Hamas accepte une proposition des médiateurs. Israël envoie une délégation et bombarde en même temps la ville de Rafah. On va vous expliquer. Marseille se prépare à accueillir la flamme olympique. Ce sera demain avec une grève des éboueurs qui dure depuis 8 jours maintenant. Et puis Paris, face à son destin ce matin, demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund ce soir au Parc des Princes.
Et puis faut-il fermer les petites maternités? Selon la Cour des comptes, elles ne remplissent pas les conditions de qualité, de sécurité des soins. Juste après le journal, je reçois le professeur Yves Ville, chef de service à l'hôpital Necker à Paris. Le Proche-Orient retient son souffle ce matin.
Oui, la situation est la suivante ce matin dans la bande de Gaza. Et Romain Houg va nous expliquer, une proposition de trêve est sur la table. Le Hamas l'a accepté hier soir. Pas Israël qui a bombardé ces dernières heures la ville de Rafah.
Des explosions entendues jusque tard cette nuit à Rafah et dans ses environs. Celles des frappes aériennes menées par l'armée israélienne dans la région où des chars ont pris position ces dernières heures. Preuve de la poursuite et même de l'intensification de l'opération menée par Tsahal dans ce territoire où s'entassaient encore le week-end dernier plus d'1,2 million de Palestiniens déplacés par les combats. Une opération militaire que le cabinet de guerre d'Israël a décidé de poursuivre hier soir malgré un feu vert donné par le Hamas à un accord de trêve, incluant notamment un retrait total des troupes israéliennes. Un accord loin des exigences, juge le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Guillaume Lagan est spécialiste des relations internationales.
Ça peut être que le Hamas demandait une suspension des opérations militaires pour toujours. Or, Israël a bien insisté sur le fait qu'elle voulait, entre guillemets, terminer le travail à Rafah. On peut aussi imaginer que le nombre d'otages libérés était trop faible et que les exigences en matière de libération de prisonniers palestiniens était trop élevé.
Le Qatar, l'un des pays médiateurs, tout comme Israël, ont annoncé l'envoi ce matin en Égypte de leur délégation pour tenter de relancer les négociations entre l'État israélien et le Hamas.
Et alors ça ne s'arrête pas. Gabriel Attal donnait hier soir le chiffre de 366 faits antisémites enregistrés depuis le début de l'année en France, en hausse, écoutez bien, de 300% par rapport au premier mois de 2023. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre. C'était hier soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, avec dans l'assistance Cyprien Pezeril, des invités qui reprochent au gouvernement de ne pas agir.
Oui, le gouvernement dénonce les actes antisémites, mais il faut aussi des résultats, réclame Joël Mergui du Consistoire de Paris.
Faut pas qu'on attende trop. Les leçons de l'histoire doivent faire que le réveil doit être plus rapide.
Certains déplorent un laisser-faire du gouvernement, notamment lors de blocages d'universités. Alors il faut éduquer et sanctionner, réclame Samuel Lejoyeux de l'Union des étudiants juifs de France et Jonathan Arfi du CRIF.
Je veux un vrai plan de sensibilisation à la question de l'antisémitisme à horizon de la rentrée prochaine.
Des réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance, de catalyseur à la haine antisémite. Donc notre responsabilité, c'est de mobiliser à la fois la puissance publique et la société civile pour trouver des solutions.
Réponse de Gabriel Attal.
Et nous agissons sur tous les fronts.
Qui défend un bilan.
Nous mobilisons des patrouilles de forces de l'ordre devant 850 synagogues, lieux de culte et écoles. Agir contre l'antisémitisme, c'est également faire preuve d'une fermeté exemplaire à chaque acte. C'est le sens de la circulaire très claire pour demander une réponse pénale ferme.
Le Premier ministre qui demande un recensement plus efficace des condamnations pour antisémitisme.
Alors hier soir, lors d'un dîner d'État à l'Élysée, Emmanuel Macron a été imité par le président chinois qui a à son tour appelé à une trêve des conflits dans le monde durant les JO. Et lors de la 35e nuit des Molières, c'était également hier soir, l'humoriste Sophie Aram a dénoncé le silence du monde de la culture sur les attaques du Hamas, expliquant qu'on ne pouvait pas exiger un cessez-le-feu à Gaza sans exiger la libération des otages israéliens. On est à une semaine tout pile ce matin du festival de Cannes. S'il se déroule correctement, il y a un doute, puisqu'un collectif de travailleurs de l'événementiel appelle à la grève lors du festival de Cannes pour demander le statut d'intermittent et protester contre les réformes de l'assurance chômage. En parlant de grève, celle des éboueurs, elle continue à Marseille. 8e jour ce mardi sans le ramassage des poubelles dans 9 arrondissements de la ville. Ce qui fait désordre évidemment à la veille de l'arrivée de la flamme olympique demain à Marseille. Grève des éboueurs plus une nouvelle fusillade mortelle avant-hier. Lionel Dian, correspondant de RMC à Marseille, ce n'est pas le paysage de carte postale qui était annoncé.
Anthony vient de Bayonne pour passer la semaine à Marseille et voir notamment la flamme olympique. Le meurtre d'un adolescent de 17 ans près d'un point de deal, ça le touche, mais ça ne l'inquiète pas outre mesure.
Effectivement, c'est pas terrible. Après, je sais qu'il faut pas aller dans certains quartiers, mais quand on reste dans le centre, ça va à peu près.
Évidemment moins grave, mais beaucoup plus visible. La grève des éboueurs CGT colle aussi à l'image de la ville et déçoit Fatia, touriste parisienne.
Les poubelles, elles débordent, c'est une horreur. Presque une déchetterie à ciel ouvert. Ça me renvoie une ville dégueulasse, ce qui est dommage parce que Marseille, c'est une ville qui est magnifique.
Ces entassements d'ordures avec les odeurs et les nuisibles qui les accompagnent. Pour Marine, qui habite Marseille, cela fait un peu partie du décor.
Malheureusement, c'est devenu un petit peu une habitude dans notre ville. Alors c'est dommage parce que quand il y a de si beaux événements comme l'arrivée de la flamme à Marseille, ça va ternir encore un petit peu l'image de la ville. Mais c'est devenu un petit peu notre quotidien, donc on est un petit peu résigné et on s'est habitué à tout ça. Mais bon, la grève des poubelles, on s'en passerait bien, ça c'est sûr.
Selon nos informations, le ramassage des ordures continuera à s'effectuer sur le Vieux-Port et sur le parcours de la flamme olympique dans les jours qui viennent, mais pas dans les quartiers plus excentrés où les grévistes sont majoritaires.
Et à la veille de l'arrivée de la flamme, journée spéciale sur RMC, les grandes gueules et un peu plus tard dans la journée, le super Moscato Show seront aujourd'hui en direct de Marseille.
Demain.
Demain en direct de Marseille, pardon. Oui, parce qu'on est mardi. Pardon, oui. On est mardi matin. Et c'est déjà le dernier jour de la semaine pour beaucoup de Français. Avec demain, le 8 mai, et dans la foulée, le pont de l'Ascension. Conséquence sur la route, beaucoup de monde. C'est une journée qui est classée rouge. Et conséquence économique, seulement 18 jours ouvrés sur les 31 du mois. Ça va coûter, selon l'INSEE, Solène Gardré, entre 4 et 6 milliards d'euros à l'économie.
Oui, certains secteurs sont pénalisés par le mois de mai. Selon l'INSEE, un jour férié coûte 1,5 milliard d'euros à l'économie française en ralentissant l'activité du bâtiment ou de l'industrie, explique l'économiste Mathieu Plane.
Quand vous avez des chantiers en cours de construction, notamment quand vous avez des secteurs industriels qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24, si vous avez moins de manœuvres ou moins de personnes disponibles, ça va avoir un ralentissement sur l'activité de façon assez évidente.
Mais cet impact négatif est rattrapé sur le reste de l'année, rassure-t-il.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça est anticipé. C'est pas comme une grève dans laquelle vous avez un blocage de la production qui serait pas anticipé. Là, les entreprises s'organisent face à cet événement qui est relativement récurrent. Donc, il faut pas juste se focaliser sur un mois qui est très spécifique.
D'autant que d'autres secteurs voient de leur côté leur activité augmenter. Les transports, la culture ou encore le tourisme. Par exemple, au mois de mai, les hôteliers notent en général une augmentation de plus de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à un mois d'hiver.
Et alors, si vous ne travaillez pas demain, vous allez pouvoir regarder ou écouter le match ce soir sur RMC. C'est la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Paris et Dortmund. 29 ans qu'il n'y a pas eu de demi-finale de Ligue des Champions en public au Parc des Princes et l'obligation de gagner pour les Parisiens de Marquinhos qui ont perdu 1-0 la semaine dernière à l'aller.
Chaque saison, chaque match, il y a son histoire. Mais il y a toute une expérience qu'on peut l'amener avec nous. Le coach aussi, il a cette expérience. Et c'est ma troisième fois. C'est des matchs qu'on aime d'avoir cette possibilité de jouer. Il faut se motiver avec des bonnes énergies pour qu'on puisse arriver au match et faire un très bon match.
Il y avait de la Ligue 1 hier soir. Lyon est allé gagner à Lille 4-3 dans un scénario fou et renversant puisque les Lillois menaient jusqu'à la 88e minute. Et puis il n'a pas déçu. Pour sa première saison en NBA, le basketteur français Victor Wembanyama a été désigné rookie de l'année. Premier français à obtenir cette récompense du meilleur jeune avec une moyenne de 21 points par match. D'autant plus impressionnant que Wemby joue dans une des plus mauvaises équipes de NBA, une plus mauvaise équipe américaine.
Mais voilà, rookie de l'année, lui est MVP. Tous les jours, c'est Manu Le Chypre qui vient de s'installer dans ce studio. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Pleine forme ?
À fond.
Autant que Kylian Mbappé ?
Ah, j'espère.
Ah, on espère. Ce soir, on y croit ou pas ?
Bah, on y croit.
Non, mais la France tremble à 6h09, c'est le rendez-vous, de Manu, de Quentin. On fait monter le suspense depuis ce matin. Alors ce soir, Manu, PSG Dortmund, score final ?
3-1.
Donc, qualif des Parisiens ce soir.
Absolument.
Quentin ?
2-0, tu verras. 2-0, ça va passer par Paris.
Dans les deux cas, ça me va. Hein. 2-0 ou 3-1, dans les deux cas.
Et toi, tu dis
je
quoi ?
Je signe.
C'est toi le supporter. Hein.
J'ai envie d'y croire avec vous. Allez, je vais être team Manu, je vais être team 3-1. Mais on débriefe tout ça demain à la même heure, évidemment. On sera là demain matin. Et puis, on retrouve Quentin tout à l'heure, évidemment, à 7h pour un prochain journal. Il est 6h09.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Oui, tous les matins, vous le savez, on vous offre des cadeaux à vous, les lève-tôt qui écoutez toute l'info sur RMC. Mais pour ça, il faut répondre, Estelle, à une question d'actu.
Et oui, quel joueur parisien joue son dernier match de Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes?
Alors, si vous avez la réponse, bah, vous l'avez, si vous venez d'écouter le journal de Quentin, vous le savez, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16. Et puis, on va vous tirer au sort pour gagner.
Eh bien, pour gagner un radio réveil de Ernie Cri de la marque Muse qui simule l'aube au réveil et sans oublier le sport USB-C pour recharger votre téléphone.
Voilà, un réveil high-tech dernier cri pour vous tout de suite si vous êtes tiré au sort, si vous envoyez actu par SMS au 732-16, le ou la gagnante avec nous dans quelques minutes en direct.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faut-il fermer les petites maternités? Elles sont aujourd'hui dans le viseur de la Cour des comptes qui pointe des dépenses en hausse pour des résultats sanitaires médiocres. Bonjour, professeur Yves Ville, chef de service à la maternité de l'hôpital Necker à Paris. Vous aussi, vous estimez qu'il faudrait que les Françaises fassent un peu plus de kilomètres pour accoucher en toute sécurité. Vous nous dites pourquoi dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h12, vous êtes bien sur RMC. Et cette question à la une ce matin, faut-il fermer les petites maternités?
L'invité de Charles Matin.
Oui, les petites maternités sont dans le viseur de la Cour des comptes, rapport publié hier. La Cour pointe certains établissements qui ne remplissent pas les exigences de qualité, de sécurité des soins. Sur 34 pays européens, la France est au 22e rang en termes de mortalité néonatale. Et surtout, on dépense de plus en plus. Les sages de la Cour ont analysé les dépenses, plus 9% entre 2016 et 2021, alors que la natalité a reculé, il y a moins de naissances et une qualité de sécurité des soins qui diminue. Bonjour, professeur Yves Ville.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes chef de service à la maternité de l'hôpital Necker à Paris, membre de l'Académie de médecine. Vous-même, il y a un an, vous aviez publié un rapport avec des recommandations drastiques. Comme la Cour des comptes, vous plaidez pour la fermeture des plus petites maternités. Il y a même un chiffre, les maternités qui réaliseraient moins de 1000 accouchements par an. Pourquoi fermer ces petites maternités?
Alors, la question comme la réponse sont un peu irritantes et on peut le comprendre pour le public, pour les élus. Il ne s'agit pas de fermer, il s'agit de regrouper. Il s'agit de regrouper des maternités qui, aujourd'hui, n'ont plus les moyens d'assurer la continuité des soins, c'est-à-dire de s'occuper de ces familles 24 heures sur 24 toute l'année, dans de bonnes conditions d'accueil, de sécurité et de proximité.
Ça ferait quand même une centaine d'établissements concernés. Si on prend ce seuil de 1000 naissances par an pour qu'une maternité reste ouverte, il y en aurait une centaine aujourd'hui des maternités, on dit des petites, j'ai envie de dire des maternités de proximité, qui potentiellement fermeraient ou en tout cas ne feraient plus d'accouchement.
Depuis 20 ans, 40% de ces maternités ont fermé spontanément, on peut même dire pourri spontanément, puisque rien n'a été organisé pour les regrouper. Et ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter si on n'effectue pas, par une démarche tout à fait proactive, ce regroupement. Et donc, ces maternités sont en tension extrême parce qu'il existe une vraie crise des métiers de la périnatalité. Et puis, dans désert médical, il y a le mot un peu désert, et ce n'est pas là que le nombre de naissances est le plus important. Mais en France, aujourd'hui, et y compris si ces regroupements étaient faits, plus de 98% de la population serait à moins de 30 minutes d'une maternité. Donc certes, la Cour des comptes utilise l'euphémisme « il faut regarder au cas par cas ces maternités », mais en gros, effectivement, ça concerne une centaine d'établissements.
Oui, mais c'est pas neutre, sans maternité qui fermerait. J'ai envie de me mettre à la place d'un jeune couple là, qui attend un enfant et qui se dit « bah, je suis quand même rassuré si la nuit de l'accouchement, je n'ai pas 150 km à faire pour aller à la maternité. C'est rassurant d'avoir une maternité proche de chez soi, non ?» Et vous dites, bah non, ce n'est pas forcément le plus sûr.
Alors, les personnes qui vivent aujourd'hui à 150 km seraient toujours à 150 km. Mais les regroupements ne vont pas allonger le temps de trajet pour plus que 0,3% de la population. Et s'ils étaient effectués, ce qui n'est pas gagné, puisque les élus se cabrent, et font comme si le problème était ailleurs. Le problème, il est médical, il a été exposé. La solution est dans les mains des élus, non pas en mettant le problème sous le tapis, mais en réorganisant leur territoire. Il y a aujourd'hui 450 maternités en France, et donc il y a en gros un tiers des communes en France qui a une maternité, ce qui veut dire qu'il n'est pas invivable de vivre dans deux tiers des communes françaises. Et il existe 219 ou 220 communautés d'agglomération. C'est ça la bonne échelle, c'est la communauté de communes ou communauté d'agglomération.
Et pourtant, il y a des élus partout sur le territoire qui se battent pour que leur maternité reste ouverte. Alors que vous nous dites, ces maternités sont en train de pourrir. Donc,
ça n'est pas le bon combat. Il ne faut pas se battre pour qu'elles ne ferment pas quand elles sont déjà en train de péricliter depuis des années. Ça fait 25 ans que le problème dure. Il faut aider à ce regroupement et localement maintenir le suivi de toute la grossesse et même en être l'organisateur et simplement organiser le fait qu'une femme puisse accoucher dans une structure en toute sécurité en regroupant les moyens pour les accouchements. Mais le suivi avant et le retour à la maison très rapide quelques heures après l'accouchement, près de chez soi, dans un centre de périnatalité de proximité dont il faut redéfinir les missions et à qui il faut donner les vrais moyens de travailler, eh bien, c'est un garant de proximité qui rimerait avec sécurité et un bon accueil.
Oui, mais ça peut être aussi rassurant d'accoucher dans une maternité dans laquelle on est déjà allé plusieurs fois tout au long de sa grossesse. Là, vous dites qu'il faudrait aller dans la maternité près de chez soi pour tout le suivi avant la naissance. Et puis le jour de l'accouchement, hop, on découvre l'immense établissement qui est un peu plus loin.
C'est la question du travail en réseau. Le travail en réseau depuis 25 ans, les seuls décrets un peu étoffés de périnatalité, c'était en 98 et un petit peu en 2000, où on a chargé la mule sur les devoirs et pas sur les moyens, eh bien, c'est de travailler avec un réseau inter-établissement. Donc rien du tout de proximité et de personnalisation. Il faut revoir ce travail en réseau, c'est ce que le rapport de l'Académie de médecine publié il y a un an recommande, et que le réseau commence à la proximité avec des soignants de confiance et que ce réseau fasse que les gens ne soient pas des inconnus déboulant dans une maternité au dernier moment. Il peut y avoir des contacts avant d'accoucher, une grossesse dure environ 9 mois.
Oui, et est-ce que, on a parlé là du combat des élus, on a bien compris qu'il y avait un blocage politique sur la fermeture de ces petites maternités. Est-ce que du côté des soignants, on est prêt aussi à jouer ce modèle? Quand votre rapport a été publié il y a un an, on a vu aussi des syndicats de soignants plaider à l'inverse pour le maintien des petites maternités, leur accorder plus de moyens pour qu'elles continuent à pratiquer des accouchements.
Hors d'intérêt catégoriel ou très, très spécifique, soit de spécificités de territoire qui sont vraiment très difficiles à gérer, l'ensemble des spécialités qui ont été auditionnées par l'Académie de médecine étaient pour ces changements, puisqu'ils ont eux aussi à cœur de travailler en sécurité et de ne pas être maltraitants.
Parce que aller dans les grands centres, c'est aussi avoir accès au matériel de dernière technologie, évidemment, et à toute la structure de l'hôpital. Quand je vous entends, Yves-Ville, en fait, les médecins sont pour, la Cour des comptes plaide pour, parce qu'il y a aussi des économies d'échelle à faire. En fait, il ne reste que les politiques, les élus locaux, c'est ça.
Il est impossible de changer quoi que ce soit sans le soutien actif et même proactif des élus locaux. Et plutôt que de nier le problème, il faut travailler ensemble et ça n'est absolument pas insurmontable.
Eh bien, on verra si les élus locaux entendent votre appel, celui de la Cour des comptes, à non pas fermer, si j'ai bien compris, ces petites maternités, les maintenir ouvertes, mais regrouper les accouchements dans les plus grandes structures, dans l'intérêt des Françaises, vous le dites, même s'il y a quelques kilomètres de plus à faire, c'est aussi plus de sécurité au moment de l'accouchement. Je vous remercie, professeur Yves-Ville, d'être venu défendre vos propositions ce matin dans ce studio. Je rappelle que vous êtes chef de service à la maternité de l'hôpital Necker à Paris, il est 6h20.
RMC, Charles Matin.
Et dans un instant sur RMC, on parle pouvoir d'achat, c'est Manu Conso.
Ah, les petits échantillons, vous savez, tout ce que les clients aiment bien dans les magasins, notamment les parfumeries, tout ça c'est fini.
Et c'est la loi qui le dit ?
Et c'est la loi qui le dit.
On va tout savoir dans un instant.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 6h21, vous avez rendez-vous comme chaque matin avec Manu Le Chypre.
RMC, Manu Conso.
Manu, les commerçants n'ont plus le droit d'offrir des échantillons de produits à leurs clients.
Oui, et c'est une des conséquences de la loi anti-gaspillage de 2020. Vous savez, cette grande loi qui interdisait les sacs en plastique à usage unique, qui interdisait la vaisselle jetable, les pailles, les cotons-tiges, etc. Et il y a une mesure qui n'était pas encore entrée en vigueur, c'était l'interdiction des petits échantillons des produits que vous offrent les commerçants. Ça aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2022, mais on attendait toujours le décret qui en précise les contours, et il vient seulement d'être publié avec application au plus tard le 1er juillet prochain. Et donc, il sera définitivement interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, vous allez voir que c'est une nuance importante, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale. Alors, mesure quand même un peu hypocrite, dans la mesure où le commerçant, il peut quand même, alors, entre guillemets dans le décret, par tout moyen, inciter les consommateurs à demander Échantillon, donc il peut mettre des affichettes partout.
Ah oui, demandez-moi un échantillon, ouais, d'accord.
Etc. C'est l'affichage, la caissière qui vous dit, ouais. Ah, vous voulez pas peut-être un petit échantillon, etc. Donc oui. C'est quand même un petit peu
un peu hypocrite. Ouais. Et en plus, il y a des exceptions. Hein.
Oui, il y a des exceptions sur les denrées alimentaires, par exemple, qui ne sont pas pré-emballées et qui sont remises gratuitement pour une consommation immédiate.
Par exemple,
immédiate,
dans le rayon du supermarché, qu'on me propose des bouts de saucisson là.
Alors, quand on vous propose un bout de saucisson, c'est possible. Ouais. Par contre, si on vous propose par exemple un petit Babybel qui est pré-emballé,
ça ne refuse pas.
voilà, ou un petit apéricube.
Oui, en cas de fringale entre deux rayons.
Voilà, entre deux rayons, comme c'est pré-emballé, non, ça c'est pas possible. Et puis seront toujours autorisés les échantillons contenus dans une publication de presse qui est vendue en kiosque ou sur abonnement. Donc vous voyez, l'objectif c'est au final évidemment de réduire la quantité de déchets émis. Bon, pas sûr que ça ait un impact spectaculaire.
Bon, c'est un message en tout cas qui est envoyé, mais pas sûr que ça suffise pour sauver la planète. La disparition annoncée, même si elle ne sera pas totalement effective, des échantillons à partir du 1er juillet prochain à 6h23, on joue.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et c'est Frédéric qui a été tiré au sort pour jouer avec nous depuis la Mayenne. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Oui, bonjour.
Comment ça va d'abord ce matin Frédéric?
Eh ben impeccable.
Impeccable. Levé tôt pour le boulot?
Levé tôt pour le boulot, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis employé commercial, je me mets en rayon.
Ok, et alors tiens, la question du jour, est-ce que vous bossez demain là ou est-ce que vous faites le pont?
Demain matin, je travaille.
Ah ben voilà, un courageux qui sera avec nous demain donc en direct parce que nous aussi on sera là évidemment demain matin. Mais Frédéric, voilà. Cette journée va être très belle puisque vous allez commencer avec un cadeau. Enfin, on va voir si vous avez la bonne réponse à notre question d'actu.
Qui joue son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes?
Kylian Mbappé.
Oui, Kylian Mbappé ce soir. A priori, le dernier match au PSG, au Parc des Princes, en Ligue des Champions. Oui, j'ai du mal à le dire. Ça s'entend. Bon, Frédéric, je vous cache pas que d'abord, c'est gagné.
Et oui, vous gagnez un radio réveil de la marque Muse qui simule l'aube et porte au USB. C'est pour recharger votre téléphone.
Et puis Frédéric, depuis 5h ce matin, je n'ai eu au 32-16 que des supporters de l'OM qui m'ont chambré et qui sont quasiment tous pour Dortmund ce soir. Donc Frédéric, je me lance. Votre prono pour ce soir?
2-0 pour le PSG.
Oh, vous me faites plaisir, Frédéric. Allez, la coque RMC pour smartphone, elle part tout de suite en Mayenne. Elle est pour vous, Frédéric. Ça me fait plaisir. Le réveil, la coque pour smartphone. Voilà, une belle journée qui commence pour vous, Frédéric. Et oui, 2-0, je signe pour le PSG ce soir face à Dortmund. Et puis, pour que cette journée soit encore plus magnifique, c'est Apolline de Balère qui vient de nous rejoindre. Vous l'entendez.
Charles.
Salut, Apolline.
Salut Charles. Salut, Frédéric, Estelle, Manu et vous tous qui êtes avec nous à 6h25. En ce mardi 7 mai, et ce soir, vous le savez, c'est le début du pont de l'Ascension. On espère qu'un certain nombre d'entre vous vont pouvoir en profiter. On va vous donner les dernières prévisions de trafic et puis vous venez témoigner au 32-16. Est-ce que vous faites partie de cette France qui s'arrête ou de la France qui bosse? Est-ce que vous avez les moyens de partir pour quelques jours, de vous rattraper peut-être de vacances non prises? Vous êtes hôtelier, restaurateur, gérant de camping, de maison d'hôtes? Est-ce que vous faites le plein? Je vous attends au 32-16 et puis on fera évidemment le point aussi côté météo. Je crois que ça s'améliore, mais je ne veux pas tout vous dévoiler. On va revenir aussi sur la disparition de Bernard Pivot. Vous partagez vos souvenirs au 32-16. Peut-être que vous étiez devant votre télé pendant la grande dictée avec votre feuille et votre stylo. Est-ce qu'il vous a fait aimer les livres, vos souvenirs avec Bernard Pivot? Le 32-16 vous est ouvert. Nous sommes le mardi 7 mai. Bienvenue dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.